Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Fanny et je suis une habitante de Servas. Je suis accompagnée d'Élise.
Bonjour, on est à Servas pour une émission spéciale, en direct et en public.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, nous sommes dans la cour de l'école. C'est notre première émission de radio, soyez indulgents.
Pendant une semaine, l'équipe de Radio B s'est installée à Servas. On est allé à la rencontre des habitants de la commune pour parler de culture.
Bonjour, je suis Christelle Mayussier, je suis première adjointe à la commune de Servas et je vais vous lire dans le cadre de cette émission de radio un poème de Georges Baillet qui s'intitule « Mon pays ». Mon pays, ce pays entrevu en passant, à bord d'un bolide qui le traverse en trombe, qu'on le situe en Bresse ou qu'on le voit en Dombes, je peux vous le compter, j'en suis un paysan. Ce sont les étangs gris éclatant de lumière, quand des palettes d'or se noient dans leur couchant. À travers les roseaux où ils sont, se cachant, des flottilles de canards naviguent sur leur mer. Et puis, un beau matin, le marais s'asséchant, des filets sont tirés dans l'océan d'hier, les carpes sacrifiées emplissent la gruyère. Demain, tout simplement, le lac deviendra champ. Dans leur mare, au printemps, ridicules naïades, butées, indifférentes aux joyeux gazouillis qu'exhalent sous la lune les proches taillis, les grenouilles coassent avant la persillade. Ce sont les vaches rousses qui portent dans leur sein le produit magnifié par la magie des ondes, ce fromage onctueux que nous envie le monde, le Bresse bleu, et pour d'autres raisons, les villages voisins. Puis il y a la Velle, au creux de son vallon. À sa source natale, elle est restée fidèle. Elle emporte du ciel au fond de sa prunelle pour aller à la Saône, le chemin sera long. Visant la prairie, elle va dire bonjour au moulin qui sommeille en rêvant de farine et parfois se réveille au bruit de sa turbine pour la Gaule de Bressane, pain des anciens jours. Ce n'est rien qu'un mélange de ciel, de terre et d'eau, diriez-vous du pays en poursuivant la route. Comme la chèvre au piquet aime l'herbe qu'elle broute, moi j'y suis attachée et je le trouve beau. Ceci était un poème de Georges Baillet, c'est un ancien élu de la commune qui était agriculteur au hameau de l'Aléria. Ce poème est extrait de « Mémoires de pays », le deuxième tome, paru en 2006 aux éditions de la Tourgile.
Merci pour cette présentation poétique de Servas.
À Servas, il y a aussi la communauté Emmaüs. Sur 30 compagnons et compagnes, une grande variété de cultures, mais aussi de clients qui viennent de partout. On les écoute.
De quel pays venez-vous ?
De la Côte d'Ivoire. Je viens de la Guinée-Conakry.
Je suis congolaise, de Kinshasa.
Je suis arménienne.
Je viens de France.
De France ?
De France.
Je viens d'Albanie.
La France.
Quelles sont vos traditions culturelles ? Par exemple, un plat, une danse, une fête ?
Tout ce qui fait plaisir.
C'est le saucisson, parce que je suis lyonnaise et j'ai été élevée au saucisson.
Le poulet de Bresse, par exemple, que je fais, moi, avec de la crème et du vin jaune.
Moi, j'adore les pâtes, moi.
La blanquette.
Ça, on aime bien les macaronis.
Une fête, eh ben Noël, hein, parce que c'est le regroupement de la famille, on voit les enfants, qu'on voit pas souvent.
Eh ben, fête de Noël, je crois que c'est la plus familiale.
On n'est pas vraiment tradition française, nous, on pioche un peu même dans les autres pays, donc on fait des plats de la Réunion, on fait des plats... Couscous, voilà, plein de choses.
Il y a la danse qui domine dans mon pays, au Congo démocratique.
La danse traditionnelle s'appelle Namunifari.
Il y a plus de 63 ethnies, alors il y a beaucoup de traditions et puis il y a beaucoup de plats. Et chaque ethnie a un peu son plat. Mais le plat qui est connu dans le pays, c'est la tiki. Il y a beaucoup de danses traditionnelles. Tous les ethnies ont une danse spécialement attribué à ces peuples.
Chez nous, chaque région a une tradition, chaque région a des danses, chaque région a une marque particulière, a des plats particuliers.
Pour vous, c'est quoi la culture française ?
Les libertés, égalité, fraternité, moi c'est ça la culture française. C'est un pays où on peut assez librement vivre et vivre ce qu'on a envie de vivre, que ce soit sa religion, que ce soit sa nationalité, que ce soit sa culture.
En fait, c'est tout ce qui entoure notre vie tous les jours.
Bon, là, ce que j'ai trouvé bon pour la culture française, et les Français aiment dire bonjour à tout moment et ils sont gentils.
La culture française.
Tout ce qui est monument, c'est très important, le patrimoine français.
La littérature française, à la langue française.
Et la musique, la peinture, voilà.
Une culture paysanne. Et ensuite, elle a été enrichie par par l'immigration des Espagnols. Enfin, la France, hein, c'est un pays quand même cosmopolite. Et je pense qu'elle est enrichie au fur et à mesure.
C'est la diversité.
On accueille Monsieur le maire, Serge Guérin. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'entendre un poème et un micro-trottoir. Qu'en pensez-vous ?
Le poème, je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce qu'on vit à Servaz, de par ses caractéristiques géographiques, entre la Bresse et la Dombes. Les gens qui traversent effectivement Servaz se remémorent souvent le fromage Bresse bleue, qui est en haut d'un château d'eau. Donc voilà, je pense que c'est les deux grosses caractéristiques de la commune. Et on est entre la Dombe, où on voit quelques étangs et on voit les cultures agricoles un peu plus au nord.
Le micro-trottoir a beaucoup porté sur la culture. Pour vous, c'est quoi la culture ?
Pour moi, la culture, c'est la façon de partager des choses ensemble. On peut échanger sur la littérature, tout ce qui est théâtre, cinéma, etc. Mais pour une commune comme la nôtre, je pense que c'est des petits moments de partage qu'on peut retrouver au sein d'associations, notamment avec la chorale ou d'autres associations qui permettent des échanges entre plusieurs personnes.
Comment on fait, quand on est maire, pour partager la culture au plus grand nombre ?
Une vaste question. On cherche à trouver de nouvelles idées, puisqu'on n'a pas d'événements culturels vraiment sur la commune, mais de trouver de nouvelles idées qui seront à même d'attirer des personnes de publics différents. On fait des choses au niveau de l'école avec les petites scènes vertes, le conservatoire à rayon départemental, etc. Pour les adultes, c'est plus difficile. Mais on essaye de trouver des petites pistes qui peuvent intéresser toutes les tranches d'âge.
Et sinon, quelles sont vos préférences culturelles ?
Mes préférences culturelles, moi je suis plutôt attaché... j'apprécie beaucoup la musique, la lecture, et après je m'intéresse à tout, le théâtre, le cinéma, etc.
Est-ce que vous auriez un coup de cœur comme un film, un livre ou une musique à partager ?
Alors ça sera une exposition que j'ai été voir à Paris à la Fondation Louis Vuitton sur Basquiat et Warhol. Donc c'est une exposition qu'ils ont fait à quatre mains. Et c'est tous les deux des artistes, notamment peintres. Et pendant une période de leur vie, ils ont fait des peintures à quatre mains. Voilà.
Merci à vous Serge Guérin, vous êtes le maire de Servaz.
Merci à vous.
Notre commune a la chance d'avoir deux personnalités extraordinaires.
L'une d'entre elles est championne du département, l'autre est née il y a 97 ans.
Je m'appelle Éléonore, j'ai 12 ans, j'habite à Servaz.
Tu es championne de l'un d'échecs. Comment as-tu commencé à y jouer et depuis quel âge ?
J'ai commencé à jouer aux échecs à l'âge de 7 ans, car mon papa m'y avait initié les bases. Ensuite, il m'a inscrit dans un club, le Cercle d'échecs Bressan, à Bourg.
Qu'est-ce qui te plaît dans les échecs ?
Ce qui me plaît dans les échecs, c'est le fait de réfléchir pour trouver un bon coup et d'être patient, de réfléchir pour trouver une stratégie, une tactique, tout ça. C'est vraiment ce qui me plaît dans ce jeu.
À partir de quand as-tu commencé les compétitions ?
Ma première compétition, je l'ai fait le 1er mai 2019, quand j'avais 7 ans, presque 8 ans. C'était à Bourg-en-Bresse et c'était pour tous les joueurs qui appartenaient à un club. Et donc mon papa et moi avons participé et je suis arrivée avant-dernière. Donc voilà.
Quelle a été ton émotion quand tu as gagné le concours départemental ?
Ah, j'ai ressenti beaucoup de joie parce que c'est vraiment beaucoup d'entraînement. J'ai été un petit peu fière d'avoir réussi à atteindre ce titre, on va dire. Et j'ai été championne deux fois.
Tu peux nous raconter la finale ?
Alors, aux échecs, ça marche pas vraiment comme ça. On joue 9 parties et ensuite... À chaque partie gagnée, on gagne un point. À chaque partie perdue, c'est zéro. Et quand on fait une nulle, on gagne la moitié des points, donc un demi-point. Donc je peux très bien perdre la dernière partie et avoir quand même 8 points et donc être première. Mais si je me rappelle bien, j'avais gagné toutes mes parties, donc j'ai été championne de l'Ain.
Est-ce que tu prévois de participer au championnat de France d'échecs ?
Oui, j'ai déjà participé au championnat de France d'échecs 3 fois. Mais avant, il faut se qualifier pour le championnat régional. Cette saison, j'ai déjà fait les 3 championnats et ça reprend normalement en novembre-décembre.
Et comment ça s'est passé le championnat national ?
Cette année, je suis arrivée 21e sur 85 avec 5,5 points sur 9. Donc j'étais assez contente.
Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence à jouer aux échecs ?
Je commencerai par dire à cette personne de s'inscrire dans un club pour vraiment atteindre le plus haut de ses capacités et ensuite vraiment se demander si les échecs c'est le sport fait pour cette personne et si oui vraiment s'entraîner sur par exemple des plateformes d'échecs comme LeChess et Chess.com qui sont des plateformes d'échecs gratuites et qui permettent de jouer, d'avoir des cours et d'accéder à des problèmes.
Considères-tu les échecs comme un sport ?
Depuis 2021, ça a été accepté comme un vrai sport, donc auprès de la délégation des sports. C'est comme par exemple le foot, c'est la Fédération française du foot, et ben là c'est la Fédération française des échecs.
Oui, mais c'est pas physique comme le foot par exemple.
Personnellement, je dirais que si, un peu, parce que quand tu restes 4 heures sur une partie à réfléchir sur des combinaisons avec la pendule qui tourne, et que vraiment il faut se concentrer, tout ça, et qu'après, une demi-heure après, on va dire renchérir sur une nouvelle partie, c'est un peu compliqué. Et puis vraiment, c'est du 1 contre 1, on va dire. Alors qu'au football, on peut se reposer un peu, c'est pas forcément nous qui faisons tout le travail, et ben là c'est que sur nous que tout repose.
Est-ce que tu t'entraînes physiquement aussi ?
Non, je m'entraîne pas physiquement, mais c'est vrai que entre deux coups, on peut aller marcher un petit peu, parce que c'est vrai que rester assis, après on peut avoir mal au dos ou avoir envie de se dégourdir. Donc oui, c'est vrai que... Mais non, j'ai pas vraiment d'entraînement physique avant une partie.
Merci Léonore d'avoir répondu à nos questions.
De rien, merci à vous. Les cases sont numérotées comme sur un quadrillage. Donc par exemple, si on prend la toute première case en haut, en bas à gauche, elle se nomme A1. La pièce la plus simple, c'est le pion. Le pion se déplace de deux cases s'il est sur sa position initiale et que d'une case ensuite. Les fous, alors ce sont des pièces qui se déplacent en diagonale, sur toute la diagonale. Ensuite la dame, alors souvent appelée la reine, mais le vrai nom c'est la dame, elle peut se déplacer comme les fous et les tours. Du coup, les fous et les tours sont réunis en une seule pièce, la dame. Et la pièce la plus importante du jeu, on va dire, c'est le roi. Le but du jeu, c'est de le défendre et qu'il ne soit pas en position de mat, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus bouger. Ils peuvent se déplacer tout autour d'eux.
Bonjour Mémé, est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Germaine Favier, je suis née à Servas et j'y suis encore.
Comment fonctionnait l'école à ton époque ?
Ben, on allait déjà à l'école à pied, hein. Il n'y avait pas le choix. Et puis, on allait à l'école à l'Aléria, nous. C'était mixte. Il y avait garçons et filles. Il y avait les frères, les sœurs. Il y avait tout le monde. Je devais avoir 6 ans, je crois. J'ai passé mon certificat d'études après. On était pas mal à l'école. On était mieux qu'à la maison.
À l'école, à quel jeu jouais-tu ?
On n'avait pas tellement des jeux à l'école. La récréation, on l'a passée comme ça. Ça nous reposait. Il y avait tous les copains puis les copines, quoi. C'est ça.
Et quand tu n'étais pas à l'école, quels étaient tes loisirs ?
J'allais chez ma copine, on faisait des jeux, on regardait des trucs, un peu de tout. Il n'y avait pas la télé, hein. Il n'y avait pas de télé.
On a vu qu'il y avait déjà la fête foraine de la Saint-Martin, qu'il y avait des cinémas et un théâtre à Bourg-en-Bresse. Est-ce que tu y allais ?
Au cinéma, on n'y allait pas. Il fallait nous emmener, hein. Puis la fête foraine, c'était pareil, hein. On nous emmenait quand la fête foraine, c'est tout.
Est-ce que tu aimais lire ?
Ben, je lisais pas mal, oui. Oui, oui.
Quel livre lisais-tu ?
Un peu de tout. Un peu de tout, oui.
Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien avec la guerre ?
Ben, la guerre, c'était pas marrant. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose, la guerre.
Quel métier tu rêvais de faire ?
J'ai toujours été agricultrice, c'est pas... c'est pas trop changé.
Quelle est l'invention qui t'a le plus marqué ?
L'invention, ben c'est la télé, hein, la télé.
Aujourd'hui, on a accès à beaucoup de ressources culturelles, grâce à Internet par exemple. Qu'en penses-tu ?
Chez nous, on n'a pas Internet, puis on ne l'aura jamais. Ça ne nous intéresse pas. Voilà.
Merci beaucoup, Germaine.
Il n'y a pas de quoi, merci à vous.
Radio B.
Radio B.
Les bonnes ondes.
Merci à Éléonore Garcin et Germaine Favier.
La culture s'étend de village en village grâce au MUMO, le musée mobile.
Il était à Servas en début de semaine, notre équipe de reporters l'a visité.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, oui, alors moi c'est Ondine et je suis médiatrice au sein du MUMO.
Et moi c'est Elisa et je suis aussi médiatrice au musée mobile.
Bonjour, je m'appelle Amaury, je suis le chauffeur du musée mobile.
Depuis quand le projet existe, s'il vous plaît ?
Alors, le projet du MUMO a démarré en 2011, mais le camion dans lequel on est aujourd'hui roule seulement, entre guillemets, depuis 2017. On est dans le MUMO number two, quoi.
Par qui ont été créés les musées mobiles ?
Les musées mobiles ont été créés tout simplement par l'association MUMO, qui est une association résidant à Paris. Le camion ne reste jamais uniquement en Île-de-France, puisqu'il tourne dans toute la France. Pour cette saison, nous traversons l'Ain et la Loire, depuis début juillet jusqu'à fin septembre. Et vous voyez, en octobre, il va y avoir une autre exposition qui va aller cette fois-ci dans les Hauts-de-France.
Et quel est l'objectif ou quels sont les objectifs de ce musée mobile ?
L'idée est de diffuser et surtout de faire connaître l'art contemporain qui initialement n'avait pas de musée à proprement parler en fait. Hein. Les fonds régionaux d'art contemporain étaient initialement uniquement comme on peut imaginer ça comme des réserves en fait de collections et c'était des éléments qui n'étaient pas forcément montrés au public.
À chaque étape, avant que le camion se déplace, on prévoit des portes ouvertes, ouvertes au public, donc c'est pas des créneaux fermés où là tout le monde est les bienvenus. Et souvent aussi l'impact, la fréquentation, quand c'est possible, parce que des fois les enfants ne peuvent pas revenir parce qu'ils ont des obligations, mais reviennent avec leurs parents, leurs amis, leur famille, et c'est eux qui vont prendre notre place et vont faire la médiation auprès de leur entourage. Et ça, c'est vraiment... C'est très très beau à voir et à vivre. Enfin, la dernière fois, on en a eu et c'était vraiment trop chouette.
Est-ce que vous dormez dans le camion ?
Alors nous, les médiatrices, on ne dort pas dans le camion. On a chaque commune ou chaque communauté de communes qui nous accueille, qui nous prête un hébergement, voilà, dans lequel on dort très bien. Par contre, à Amaury, c'est une autre histoire.
Oui, effectivement, moi, en tant que chauffeur du musée, j'ai la chance d'avoir 2 couchettes dans ma cabine. Donc une en bas, une en haut, comme les lits superposés. Donc je dors en bas, au rez-de-chaussée, et puis la couchette du haut, je mets toutes mes affaires.
Amaury, vous, en tant que chauffeur du musée mobile, qu'est-ce que ça vous fait ? Quelles sont vos motivations de conduire ce musée mobile ?
Pour moi, c'est une expérience enrichissante. En plus, bon, voilà, je viens de commencer, donc ça fait, là, c'est le 8e jour que je suis sur ce camion. C'est vraiment une remorque très spécifique, vraiment atypique. Et bon, le camion, pour moi, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment cette chance de pouvoir apporter, moi, en tant que conducteur, la culture aux portes des villages. Je trouve ça formidable. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à la classe tout à l'heure. J'ai dit, mais qui est déjà allé au musée? Et donc, j'ai compté. Ben, donc, sur une classe, il y avait environ, donc sans trop me tromper, 50% des jeunes qui n'avaient pas été encore au musée, ce qui peut se comprendre. Donc, ça veut dire que c'est une chance pour nous de pouvoir apporter la culture sous cet angle des peintures, des tableaux. Et là, le fameux skateboard, là, moi, j'adore ça.
Parlant de l'An et la Loire, comment sont choisies les villes étapes?
Oui, alors c'est la DRAC qui nous a confié la mission de venir dans la région, donc dans l'Ain et dans la Loire. Et après, c'est plutôt soit une sollicitation des communes ou des communautés de communes qui contactent le MUMO pour dire bah, on veut bien que vous vous arrêtiez chez nous. Sinon, nous, on sollicite aussi, on propose à d'autres villes. Donc ça se fait un peu avec les deux.
Quel type d'œuvre on peut voir dans un MUMO? Et est-ce que c'est toujours les mêmes, par exemple sur 2 mois?
En fonction des tournées, les œuvres changent, mais sur effectivement la tournée qui a lieu en ce moment, donc de juin à septembre sur 4 mois, les œuvres restent les mêmes. Donc nous avons en type d'œuvre, la plupart de celles que vous voyez autour de vous sont des photographies, mais nous avons aussi donc 2 peintures et 1 sculpture. Étant donné que les œuvres ici ont été, sont des œuvres qui appartiennent au FRAC Auvergne, donc au Fonds régional d'art contemporain qui est à Clermont-Ferrand, c'est un FRAC qui oriente quand même ses collections sur des arts picturaux. C'est pour cette raison qu'on a assez peu aussi aujourd'hui de sculptures, par exemple, mais qu'on est tourné autour de la photographie et de la peinture.
Et le musée mobile diffuse toujours de l'art contemporain.
Est-ce que c'est la FRAC qui vous propose des œuvres ou comment sont-elles choisies les œuvres?
Alors, au sein du FRAC Auvergne, c'est un lieu qui rassemble plusieurs professions, dont Laure Ferlet, qui est commissaire d'exposition et qui, la décision a été prise d'orienter cette exposition sur le thème, donc, que vous pouvez lire derrière moi, qui est le premier soleil. Donc, c'est le titre de l'exposition. Donc, toutes les œuvres que vous avez autour de vous parlent de la lumière, mais aussi des ombres. Qui dit soleil dit aussi lumière et ombre. Et pourquoi premier? C'est tourné aussi autour de l'émerveillement. Cette façon et cette capacité qu'a l'être humain à s'émerveiller et à porter un regard neuf sur des choses qu'il connaît. Renouveler son regard sur un objet du quotidien, par exemple.
Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que le musée mobile, les personnes qui sont dans l'association, a juste reçu la demande de la DRAC pour venir ici, mais n'avait pas de thème spécifique. Du coup, on avait déjà travaillé avec la FRAC Auvergne, c'est un peu des amis, on a déjà bien collaboré avec eux. Donc nous, on a contacté le FRAC et c'est vraiment Laure qui a tout fait de A à Z. Donc c'est elle qui a choisi la thématique, le nom de l'exposition, mais qui a choisi chaque œuvre et qui a choisi son installation aussi.
Comment sont présentées ces œuvres? Et j'ai une question, par exemple, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de peintre et il n'y a pas de date. Donc est-ce que c'est un choix délibéré?
C'est tout à fait un choix délibéré. L'idée étant, lorsque l'exposition ne dispose pas de cartel, ce qu'on appelle le cartel, c'est là où on lit le titre, l'œuvre et la date en général, et de temps en temps aussi, même la plupart du temps, la technique de fabrication de l'œuvre. L'idée, c'est comme on est dans une exposition vraiment d'art pictural, c'est de venir face à l'image et rentrer dans cette image sans avoir d'a priori et sans se raccrocher à quelque chose qu'on comprend intellectuellement parlant. Donc un titre qui va nous parler, qui va nous diriger. Là, le fait que ces œuvres ne soient sans ces cartels, sans ces titres, ça nous permet d'aller dans ces œuvres en fait comme on le souhaite, sans être dirigé vers un point de vue, vers un sentiment ou vers autre chose.
Je veux revenir sur un point précis, en ce sens où je vous demanderai de nous parler de vos activités que vous proposez dans ce MUMO, s'il vous plaît.
Alors, nous recevons principalement des scolaires. En général, le temps est entre 1h10 et 1h30 et nous partageons ce temps-là entre un peu d'ateliers et un peu de visites. Donc les ateliers, c'est de l'activité manuelle. Certains se passent dans l'espace urbain. On leur propose d'interagir avec l'espace urbain. C'est une thématique qu'on retrouve beaucoup quand même dans l'art contemporain, donc c'était aussi une manière pour nous de faire passer cet art contemporain qu'on ne connaît pas tous très bien, forcément. Voilà, et puis après, pour ce qui est de l'école élémentaire, on va être beaucoup sur l'art plastique, sur le découpage, le collage, utiliser ces petites menottes pour fabriquer quelque chose. Et je le répète, toujours en lien avec le thème de l'exposition, qui est le soleil et l'émerveillement.
Maxence, tu as vu, toi, avec ta lumière ?
Là, il y a un soleil. Oui. Là, il y a un camion. Mm-hmm. Là, il y a encore un camion, mais qui a deux romans. Non, c'est là. Ici. Il y a un ciseau et un autre ciseau ici.
Et pourquoi on ne voyait pas vos dessins avant qu'on ne mette la lumière blanche ?
Parce que c'était de la même couleur.
La même couleur, hein. Quand c'est la nuit, on ne voit pas. Et après, quand la lumière arrive, magique, on voit.
C'est très beau, regardez.
Des vrais magiciens. Bravo.
Tout cela.
Fermez bien les feux de Paris.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce camion ?
Il y a des photos et il y a des peintures. Il y a une photo de l'ombre.
Et qu'est-ce que tu as préféré ?
J'ai préféré le skate doré. Prendre la lampe et regarder les dessins.
J'ai dessiné une fête avec un bonhomme de neige, une maison et des cadeaux avec une guirlande avec des triangles. J'ai bien aimé quand la petite feuille a fait apparaître tous les dessins.
Eh ben merci beaucoup les enfants. Bravo.
De rien, merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Fanny et Élise. On prend le relais. Je m'appelle Éléonore.
Bonjour, moi c'est Juliette.
Et moi c'est Aline. On va vous proposer un petit jeu.
Vous pouvez jouer avec nous dans le public.
Et fa bon sti, oui. Et fa bon sti, oui. Et fa bon sti, oui.
À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire?
Et fa bon sti, oui.
On attend un peu.
Bah oui. La réponse, c'est il fait beau aujourd'hui.
Nous avons enregistré un animal de Servaz en pleine dégustation.
Alors, à votre avis, c'est quel animal ?
Une grenouille, un ragondin ou un escargot ?
Alors ? Charles ? Un escargot ?
Il s'agit d'un escargot. D'ailleurs, il y a un élevage à Servaz.
Une autre question à ce propos. Comment s'appelle un éleveur d'escargots ?
Alors ? Un éleveur d'escargots. Non ?
C'est un héliciculteur.
Quel est le vrai nom de la reine aux échecs ?
Trois propositions. La princesse, la dame ou la demoiselle.
Vas-y, vas-y. La dame, bravo !
C'est la dame.
Que signifie CME ?
Alors, CME ? Vas-y, crie fort. Ça veut dire quoi ? Ah ! Conseil, monsieur le maire, un petit peu d'aide. Bravo !
C'est le conseil municipal enfants. À Servaz, on est une dizaine d'enfants entre 9 et 12 ans élus au conseil.
Voici ce que nous avons réalisé. Des totems vers le City Stade, on a planté des arbres et créé le carré de biodiversité, des cartes et des cadeaux pour le CCAS à Noël, on assiste aux commémorations et on lit des textes ou des poèmes.
On se réunit environ une fois par mois. C'est super, ça nous permet d'améliorer des choses dans la commune et d'aider.
Est-ce que vous savez comment est né le Braise Bleu ? Ce serait une reproduction d'un autre fromage. À votre avis, lequel ? Le Gorgonzola, le Roquefort ou le Bleu de Gex ?
Alors ? Ça ? Le Bleu de Gex, le Gorgonzola ?
Alors ?
C'est le Gorgonzola. On l'a lu dans le livre de la commune de 2006.
À quoi sert un carré de biodiversité ?
La réponse tout de suite.
C'est quoi le carré de biodiversité ?
Dans biodiversité, il y a les mots bio et diversité. Bio, c'est naturel. Diversité, ça veut dire plusieurs.
Le principe de la biodiversité, c'est de pouvoir préserver plusieurs espèces.
Comment le carré de biodiversité a été mis en place ?
On a défini un endroit. On a laissé pousser les herbes.
On a laissé la nature vivre sans notre intervention.
Interdiction de tomber, de construire. On a juste laissé un petit chemin pour passer à l'intérieur et voir en détail ce qu'il s'y passe.
Et alors, qu'est-ce qu'il s'y passe dans ce carré ?
Les abeilles butinent les fleurs. On a vu des lombrics et des demoiselles.
Ce sont des sortes de libellules.
On a aussi vu des escargots et même des ragondins.
C'est le cycle de la vie.
Où est ce carré ?
Il faut aller à la gare de Servasselan. Il y a un petit chemin sur la droite, en direction du lotissement Le Val-Roman.
Il y a des panneaux pour informer. C'est là où il y a le bassin de rétention.
Tout le monde peut aller le visiter ?
Oui, mais attention, il ne faut pas ramasser les fleurs.
Bravo à vous et merci pour votre participation.
En parlant de biodiversité, saviez-vous que nous avons un rucher école à Servas ?
C'est quoi un rucher école ?
C'est une section de ce qu'on appelle le syndicat départemental d'apiculture. Le syndicat d'apiculture, c'est un syndicat qui regroupe l'ensemble des apiculteurs de l'Ain, ou quasiment l'ensemble des apiculteurs de l'Ain. C'est à peu près 900 personnes sur le département de l'Ain, et qui a formé une section dont la vocation, c'est de faire une formation à qui veut y participer pour apprendre à gérer une ruche et un rucher, voilà.
C'est quoi un apiculteur ?
Un apiculteur, c'est tout simplement une personne, un homme ou une femme ou un homme, qui a des abeilles et qui gère une ruche, ou même beaucoup plus de ruches, puisque, en fait, sur le département de l'Ain, les plus gros apiculteurs sont des apiculteurs professionnels qui ont jusqu'à 500 ruches, alors que le petit apiculteur, des fois, il n'a qu'une seule ruche.
Comment fonctionne le rucher ?
C'est une sorte d'école, hein. Donc il y a une dizaine de personnes qui sont ce qu'on appelle des formateurs, c'est-à-dire qui ont suffisamment de compétences pour dispenser leur savoir. Donc ça se présente sous la forme de séances. Il y a une dizaine de séances chaque année. Il y a trois séances qui se font en salle, qui sont les séances théoriques. On apprend la partie théorique de l'apiculture. Et puis après, il y a le reste des séances qui se font sur le site de Servas, qui se trouve à l'entrée de Servas vers Braise-Leu, là qu'on appelle le Bois du Suc, et où là, les formateurs apprennent aux apprentis apiculteurs comment on gère une ruche. Voilà.
Combien y a-t-il de ruches et d'abeilles ?
Alors, au rucher école, il y a à peu près une quarantaine de ruches. Et dans une ruche, il faut savoir, c'est un chiffre que vous connaîtrez, la population, elle est variable. Mais en moyenne, une bonne ruche, on considère qu'il y a à peu près 50 000 abeilles.
Combien de litres de miel sont récoltés chaque année ?
On a dû faire, de la première école sur 40 ruches, on a dû faire ce qu'on appelle le miel de printemps, on a dû faire à peu près 250 ou 300 kilos de miel. Et sur la deuxième récolte, le miel d'acacia, c'est de 250 kilos à peu près. Et il restera encore une récolte à faire de miel d'été.
Pourquoi le rucher école s'est installé à Servas ?
C'est une longue histoire qui date de plusieurs dizaines d'années. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, c'est un groupe de trois personnes qu'ont ressenti la nécessité de former les gens, parce qu'avant, la formation, elle se faisait souvent de père en fils ou de bouche à oreille. Et donc, il y avait trois personnes, dont une personne qui habitait Servas, hein, qui s'appelait M. Jacques Petitjean. Ils ont trouvé un site sur Servas et ils ont commencé à s'installer à Servas. Et puis, depuis, l'histoire a fait son cours. Les ruches se sont déplacées. Le rucher école s'est développé. Et aujourd'hui, en 2008, donc, la demande du syndicat d'apiculture, la commune a fait l'acquisition du bois du sucre dont je vous parlais, l'emplacement où se trouvent les ruches aujourd'hui, pour permettre au syndicat d'apiculture et à l'antenne donc de formateurs de pouvoir s'installer de façon pérenne et garantie. Et puis, à partir de là, donc, il y a eu un certain nombre de bâtiments qui ont été construits. Hein, et ça fait un local voilà, dans lequel on retrouve tout le matériel. Hein, parce que quand vous avez des ruches, vous avez les ruches, c'est un habitat, souvent en bois, maintenant même en plastique, avec ce qu'on appelle la partie importante où vivent le plus gros des abeilles, ça s'appelle le corps de ruche. Hein, puis après, la partie qui est mobile, où on récupère le miel, ça s'appelle une housse. Puis après, on met un toit dessus parce qu'évidemment, il ne faut pas que la pluie rentre dedans.
Merci d'avoir répondu à ma question.
Bah écoute, c'était un grand plaisir.
Il y a plusieurs fours à pain, ça. Il y a plusieurs fours.
Merci à Gérard Gavillon pour ses informations.
Taïeb est membre de l'association Les Amis du Four à Pain.
On a échangé avec lui à propos de ce fameux four à pain.
Il y a plusieurs fours à pain à Servas. Puisque traditionnellement, dans les fermes, même au village, eh bien, les gens faisaient leur pain. Donc il y en a plusieurs. Et celui de la Frotasse, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il n'est pas situé dans le village, il est dans une ferme à l'extérieur du village, en limite de la commune de Perona et de Servas. Il a déjà subi une première restauration en 1994, si mes souvenirs sont bons. Et puis les propriétaires ne souhaitent pas le conserver. Donc ils ont fait gentiment la proposition à la commune de le récupérer.
Où va-t-il être déplacé ?
La commune a mis à disposition un terrain à proximité de la salle polyvalente. Et donc il sera installé là-bas pour des raisons précises. C'est d'abord parce qu'on va pouvoir bénéficier de toutes les infrastructures de ces deux établissements. Mais tout le monde pourra y venir. Donc on est soumis à un certain nombre d'obligations particulières. Accessibilité et puis place de parking handicapé. Donc on a tout ce qu'il faut sur place.
Ensuite, qui pourra l'utiliser et comment ça va marcher ?
Qui va pouvoir l'utiliser ? D'abord, les associations. C'est prévu pour être utilisé par les associations en présence d'un membre de l'association pour l'instant, pour des raisons pratiques. Et il sera à disposition pour des événements familiaux. On pourra être prêté pour des activités familiales et peut-être aussi pour toutes sortes d'associations qui s'intéressent à cette activité.
À noter que l'association Les Amis du Four à Pain recherche toujours de bonnes volontés.
La prochaine étape pour le four, le démonter pierre par pierre pour le remonter vers le stade.
C'est la fin de cette émission.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci au public.
Et merci. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Christelle, Serge, Nathalie, Axel, Raphaël, Éléonore, Taïeb, Bernadette, Jean-Louis, Alassane, Georgie, Charles, Élise, Fanny. Merci à Virginie pour ses enregistrements. Merci à Tom pour la musique du générique.
Merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions.
Merci à Radio B et à Jimmy pour le direct.
Et merci à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Et à Grand-Bourg, agglomération, pour le soutien de ce projet. Merci à l'équipe municipale de Servas pour son accueil et à la communauté d'Emmaüs pour les repas.
À bientôt sur Radio B.